Europe Midi, Rémi Bostaron.
Bonjour, bienvenue, il est midi et demi.
Je vais pas rester bloqué ici, hein. On bouge pas ici, alors. Oh non, non, je préfère partir.
Et alors, à l'île de Ré, c'est quoi le programme?
Oh, bah déjà, il y a des grandes marées, là.
Ne parlez pas de confinement, ce sont des mesures de freinage massif qui concerneront 21 millions de Français à partir de ce soir minuit, des mesures que fuient donc visiblement de nombreux franciliens, comme on constate depuis ce matin à la gare Montparnasse, où nous serons dans un instant. Des mesures saluées par la maire de Paris, Anne Hidalgo, des mesures qui surprennent son homologue d'Evreux, Guy Lefranc, finalement concerné comme l'ensemble du département de l'Eure à sa grande surprise. Des mesures qui ont une logique dans l'esprit du gouvernement, c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir avec Mathieu Charrier, des mesures qui ont un coût économique. Les commerçants bataillent en ce moment avec les autorités pour éviter d'être concernés par les fermetures. Des mesures enfin qui ont un coût psychologique, mais vous entendrez des conseils avisés pour aménager une zone de confort en temps de confinement. Pendant ce temps, les grands de ce monde montrent leurs muscles. Double défi pour Joe Biden face à la Russie et face à la Chine. Et les grands du football sont fixés. Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich en quart de finale, revanche de la dernière finale. L'invité d'Europe Midi, Léa Lejeune, journaliste, elle publie une enquête aux éditions du Seuil. Féminisme washing quand les entreprises récupèrent la cause des femmes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont donc 16 départements et 21 millions de Français qui seront concernés à partir de ce soir minuit par ce confinement d'un nouveau type, avec une liberté de mouvement limitée à un rayon de 10 km, mais sans limitation de durée, si ce n'est bien sûr le couvre-feu fixé désormais à 19h le soir. De nouvelles règles que certains franciliens ont décidé de contourner en quittant tout simplement leur région, comme ceux que vous rencontrez depuis ce matin à la gare Montparnasse, Damien Maistre.
Oui, et après l'affluence de ce matin, c'est une nouvelle série de Parisiens qui arrivent là depuis midi. Certains ont même pris leur billet en toute dernière minute au réveil.
Bah, c'est le Premier ministre là, qui décide à la dernière minute. Bon, je me suis pris à la dernière minute aussi.
On les reconnaît à leur bagage, un posant gros sac à dos vissé sur les épaules pour les étudiants, comme Camille qui rentre dans le Perche.
J'ai grandi dans le plein air, donc être à Paris, pour moi, dès le départ, c'était un peu compliqué. Mais là, avec le contexte, du coup, bah, c'est beaucoup mieux de retourner chez ses parents. Puis je revois quelques amis de longue date, on essaie de travailler ensemble, on essaie de trouver des solutions quoi.
Pour d'autres, c'est valise à roulettes, tout confort. Claude est à la retraite, il part dans sa maison secondaire sur l'île de Ré, 4 semaines au minimum.
À mon avis, je vais rester plus longtemps. Je vais pas rester bloqué ici, hein. On bouge pas ici, alors. Non, 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 je préfère partir.
Et alors, à l'île de Ré, c'est quoi le programme?
Oh, bah déjà, il y a des grandes marées là. Alors on va pouvoir aller à la pêche, ah, voilà, déjà.
Et il ne sera pas le seul, plus de la moitié des trains vers La Rochelle sont totalement complets cet après-midi.
Merci Damien Maistre, à la gare Montparnasse. Donc pour Europe 1, c'est Parisiens qui partent, mais leur mère, Anne Hidalgo, qui reste, elle apprécie plutôt les mesures prises.
Je me réjouis qu'on autorise tous ceux qui sont dans les régions concernées par ce confinement, et notamment à Paris, à aller dehors. Parce que dehors, on se contamine moins qu'à l'intérieur. Je vais beaucoup insister quand même dans les derniers échanges que j'ai pu avoir avant-hier soir avec le Premier ministre pour que, évidemment, les parcs et jardins parisiens restent ouverts, qu'on ne revienne pas à la situation ubuesque de l'année dernière. Et il faut, moi j'avais demandé qu'on multiplie par 4 la vaccination à Paris et dans les territoires qui sont les plus tendus hein, du point de vue des contaminations. Je pense qu'il faut le faire et accélérer.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui valide donc cette logique de confinement, une logique qu'a bien du mal à comprendre en revanche le maire d'Evreux, concerné lui aussi par ces mesures. Guy Lefranc ne s'y attendait pas du tout.
Nous n'attendions pas du tout ce confinement, puisque j'étais en contact avec le préfet tout l'après-midi hier. Lui-même, à aucun moment, n'a évoqué ce possible confinement. Le préfet était plus sur le renforcement des mesures existantes, sur les grandes surfaces, sur les marchés, mais peu sur un confinement. Donc je pense que ça a été décidé par l'État, peu de temps avant l'intervention du Premier ministre. Les habitants eux-mêmes, certains sont résignés en disant « bon, on n'a pas le choix », et d'autres sont en colère en disant « mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? On savait qu'on allait y arriver ». Hier soir, j'ai eu beaucoup de commerçants qui étaient désespérés, puisqu'une fois on les cible alors qu'ils ne sont pas responsables de la pandémie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'acceptation sur ce sujet, mais plus soit de la résignation, soit de la colère.
La colère de Guy Lefranc, le maire d'Evreux, interrogé par Diane Berger. Mais il n'y a pas que dans l'Eure ou en Seine-Maritime que les commerçants dont il parlait s'inquiètent. Carole Ferry, dans tous les départements reconfinés, les refermetures passent mal.
Oui, c'est la troisième fois en un an qu'ils sont contraints de baisser le rideau. Ils ont beaucoup souffert pour la collection hiver. Certains ont encore des stocks sur les bras. Et là, il va falloir ranger la collection été, tout juste achetée. C'est particulièrement vrai pour le prêt-à-porter, bien sûr, mais aussi la chaussure. Écoutez Philippe Chély, il est propriétaire de deux magasins à Paris.
Nous avons reçu 80% des collections. Il va falloir la financer pour la stocker. Le premier confinement, ce fut crochet droit. Le second confinement, ce fut crochet gauche. Aujourd'hui, troisième confinement, c'est un uppercut et je me dois de rester debout.
Alors, les libraires et les disquaires savent qu'ils peuvent rester ouverts. Et puis, c'était la bonne surprise ce matin pour les coiffeurs. Hier soir, ils pensaient être fermés. Et ce matin, ils ont appris qu'ils pouvaient rester ouverts. Franck Provost est le président des entreprises de coiffure.
Vraiment, ça a été comme un coup de tonnerre. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les coiffeurs. On devient essentiel. On est très heureux, mais on a encore une petite interrogation dans le sens où on parle de protocole beaucoup plus strict. Et donc, si on doit nous changer, nous, la jauge qui est établie pour nos salons, là, ça deviendra vraiment une très, très mauvaise affaire. Donc ça, c'est un vrai souci, quoi.
La réponse est attendue en fin de journée. Enfin, les fleuristes ont demandé aussi à bénéficier d'une dérogation. Ils sont actuellement dans l'attente d'une réponse.
On va surveiller ça avec vous, Carole Ferry. Merci. Malgré cette activité réduite par le confinement, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, espère toujours obtenir une croissance de 6% en 2021. Il l'a dit ce matin sur notre antenne. Le gouvernement espère donc limiter le risque économique et surtout, il espère tirer un bénéfice sanitaire de ces mesures. Évidemment, il a fixé un cap dans 4 semaines. Alors Mathieu Charrier, quel objectif les autorités espèrent-elles atteindre concrètement en 4 semaines ?
Alors d'abord, si tout va bien, dans 4 semaines, 10 millions de personnes auront reçu leur première dose de vaccin. Et surtout, ces 10 millions de personnes, vous savez, c'est la majorité des personnes les plus à risque, celles qui ont donc le plus de chances de se retrouver hospitalisées ou placées en réanimation. Or, l'objectif justement, c'est de faire baisser cette pression sur l'hôpital. Un élément encourageant d'ailleurs, c'est qu'on commence à voir que les contaminations, hospitalisations, décès chez les plus de 75 ans baisse et c'est la frange de la population la plus vaccinée. Ensuite, deuxième objectif important, les beaux jours, ça dépend pas de nous, mais en théorie, avec le printemps, arrive le soleil, la chaleur, et on sait que ça aussi, ça a des effets bénéfiques sur le virus. C'est d'ailleurs pour ça que les nouvelles mesures sont moins restrictives concernant les règles à l'extérieur, et notamment le fait, vous savez, qu'on peut sortir sans limite de temps. Donc voilà, le pari du gouvernement, c'est de dire, si dans un mois, les plus fragiles sont protégés, saturent moins les réanimations et hôpitaux, et si le beau temps est là et donc que les contaminations baissent, eh bien il sera possible de desserrer un petit peu les taux et surtout d'envisager l'été et la suite de la campagne de vaccination avec un petit peu plus d'optimisme.
Merci pour ces perspectives Mathieu Charrier. Le vaccin AstraZeneca, de nouveau utilisé donc à partir de cet après-midi en France, mais aussi en Allemagne. L'Allemagne confrontée à une augmentation exponentielle des cas d'infection quelques jours seulement après un léger assouplissement des mesures. De nouvelles fermetures pourraient être décidées dès lundi. 4 semaines de reconfinement pour 21 millions de Français, 4 semaines à affronter psychologiquement. Certains évoquent avec insistance une nouvelle chape de plomb, mais il est surtout temps de voir des failles dans cette chape. C'est ce que nous dit la psychothérapeute Ariane Calvo.
Tout ne s'est pas arrêté parce que la crise sanitaire est présente. Tous ces projets que je peux continuer à imaginer, sur lesquels je peux commencer à poser des petites pierres. On a encore le droit de circuler jusqu'à 10 km. Il n'y a pas d'un contrainte horaire comme il y avait au début, le couvre-feu est repoussé d'une heure, observez quand même tout ce que vous avez le droit de faire, sinon on se crée la sensation d'enfermement nous-mêmes. Notre cerveau se focalise sur ce qui est négatif et donc si on ne l'exerce pas à observer également ce qui est positif dans nos vies, eh bien on a l'impression que notre vie est un enfer.
Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour forcer notre cerveau à penser au positif ?
Absolument, notez tous les jours 3 raisons pour lesquelles on aurait envie de remercier la vie. Ça peut être des toutes petites choses, un café particulièrement excellent le matin, le vent dans les feuilles, faire ce point tous les soirs sur notre journée. Notre cerveau, au bout d'un moment, le fait naturellement. Et ça, c'est extrêmement aidant dans la période actuelle.
Les conseils de la psychothérapeute Ariane Calvo, interrogée par Yasmina Katou, de quoi soigner peut-être le classement de la France parmi les pays les plus heureux au monde. La France, 21e de ce classement qui paraît aujourd'hui, la Finlande, le Danemark, la Suisse sont les 3 pays les plus heureux au monde. La Russie est 76e, la Chine 84e.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, la Russie et la Chine, justement, leur population n'est peut-être pas très heureuse, mais leurs dirigeants sont très motivés à l'idée de défier Joe Biden.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
On se souvient de ces mots qui marqueront sans doute l'histoire de la diplomatie. C'est celui qui dit qu'il y est lancé hier par Vladimir Poutine à Joe Biden, qu'il avait qualifié de tueur. Aujourd'hui, Jean-Sébastien Soldani, c'est la deuxième étape de cette bataille de cour d'école, une cour d'école qui serait le monde en fait. Le président russe lance une sorte d'appel à la bagarre à son homologue américain.
Une bagarre entre gentlemen présidents, en tout bien tout honneur et avec des règles que Vladimir Poutine a lui-même fixées. Il le fait après avoir célébré l'annexion de la Crimée dans un stade de Moscou. À la fin de la cérémonie, le président russe profite de la présence d'une caméra et invite, pour ainsi dire, son homologue à descendre dans l'arène.
Je propose au président Biden de discuter, à condition que nous le fassions au cours d'un échange diffusé en direct. On ferait ça, comme on dit, online.
Vladimir Poutine suggère même des dates aujourd'hui ou lundi, parce que ce week-end, il dit vouloir se reposer dans la taïga. Peu de chances que Joe Biden tombe dans ce piège, et c'est bien ce qui embête le président russe. Il ne voit pas comment aborder le changement à la Maison-Blanche. Joe Biden est beaucoup moins clément avec Vladimir Poutine que ne l'était Donald Trump. Vladimir Poutine l'a bien compris, il réagit à sa manière au message envoyé par Washington. Les États-Unis sont de retour dans la partie et ne vont plus lui laisser le moindre espace.
Joe Biden défié donc par la Russie et défié dans le même temps par la Chine.
Tout ça s'inscrit dans la même logique. Pékin comprend aussi de son côté que ce sera plus difficile de manœuvrer avec la nouvelle administration américaine. Comme la Russie, la Chine a profité du vide laissé par Trump pour étendre son influence, pour prendre de l'assurance jusque dans les institutions internationales. Il y a encore peu de temps, les Chinois étaient plutôt neutres à l'ONU. Maintenant, ils sont bien plus actifs et ça, Joe Biden entend le contrer. Il le fait là par l'intermédiaire du chef de sa diplomatie qui balaie un large spectre. Hong Kong, Taïwan, cyberattaques, les Ouïghours, tout cela menace l'ordre qui garantit la sécurité mondiale, dit-il au cours d'un sommet entre les deux pays organisé en Alaska. Les Chinois, de leur côté, se posent en donneurs de leçons. Les États-Unis doivent abandonner leur logique de guerre froide, répond le conseiller aux affaires étrangères, avant d'ajouter il ferait mieux de régler les questions de racisme en référence au mouvement Black Lives Matter.
Merci Jean-Sébastien Soldani. Pendant ce temps, en Birmanie, on apprend ce matin que le correspondant de la BBC est porté disparu, annonce de la chaîne anglaise. La Birmanie marquée depuis un mois et demi par la sanglante répression de la junte militaire. Retour en France avec ces décisions ce matin du Conseil constitutionnel qui retoque les dérogations aux distances d'épandage. Les sages donnent donc raison aux ONG et aux écologistes qui dénonçaient les chartes locales mises en place pour réduire ces distances de sécurité entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides. Le sport, le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est fait, Cyril Lemoine.
Oui.
Et on est fixé, le Paris Saint-Germain surtout est fixé. Ce sont des retrouvailles avec le Bayern de Munich en quart de finale.
Et ce sera la revanche de la dernière finale remportée par les Munichois en Ligue des Champions. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est le pire tirage possible. Le Bayern, c'est la meilleure équipe du monde. Ils ont tout remporté cette saison, la Ligue des Champions, mais tous les trophées qui étaient mis en jeu. 6 Ligues des Champions au compteur, ils ont l'expérience, ils ont une belle colonie de Français, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, d'anciens de Ligue 1, Bounassar qui a joué à Marseille, ou même l'ancien Parisien Choupo-Moting, qui est désormais munichois, emmené par son goléador Robert Lewandowski, 39 buts cette saison, le gardien Manuel Neuer, donc ça sera évidemment difficile. Seul avantage, Paris recevra au match retour au Parc des Princes. En cas de qualification, notez bien que le Paris Saint-Germain affrontera en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Rien n'est impossible bien sûr pour les Parisiens avec Mbappé et Neymar s'ils sont là. Ce quart de finale qui se jouera juste après un déplacement à Lyon et la réception de Lille. Donc imaginez le calendrier. Match aller à Munich le 6-7 avril. Retour le 13-14 avril au Parc. Les autres affiches, la grande affiche de ces quarts de finale, ce sera Real Madrid-Liverpool, 19 Ligue des Champions à eux deux. Enfin, Porto affrontera Chelsea.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 et on suivra avec vous évidemment ces rencontres de Ligue des Champions, des rencontres que ne manquera pas Anissa Haddadi, le temps
évidemment.
Avec vous tout de suite d'abord avant le sport, retour des éclaircies.
Oui, ça y est, on rentre dans la phase des bonnes nouvelles côté météo parce qu'on en avait besoin, hein. Ce ciel gris là il commence à devenir pesant, alors à part sur les Pyrénées qui se retrouvent cet après-midi encore sous la neige et sous les averses, dans le sud du Roussillon jusqu'à la région Rhône-Alpes, nous avons aussi là l'arrivée de quelques petites averses, une instabilité en Corse avec un ciel gris, mais partout ailleurs, c'est le retour cet après-midi des éclaircies et en particulier sur la moitié nord, c'est-à-dire que pour toutes les régions qui se situent entre la Bretagne et l'Alsace, cet après-midi, nous allons enfin avoir de la luminosité, mais Sur la moitié nord, nous avons également le vent de nord-nord-est qui souffle jusqu'à 60 km/h dans les grandes villes. Et donc, du coup, ça accentue la sensation de froid, surtout que les températures sont toujours en dessous des normales de saison, avec 6 degrés à Saint-Etienne, 8 à Pau, Strasbourg et Dunkerque, 9 pour Limoges, 10 degrés à Lyon et Paris, 11 pour Bordeaux, 12 à Perpignan, 13 à Marseille et Lorient. Ça, c'est la maximale. Allez, un mot rapide pour demain. Demain, c'est le premier jour du printemps. Eh bien, il sera sous le soleil.
Merci, ça tombe bien. Merci Anissa Haddadi. Je reviens un instant sur le fond de la crise sanitaire pour une précision à propos du vaccin AstraZeneca utilisé de nouveau en France cet après-midi. Je vous le disais, on apprend un instant que la haute autorité, l'autorité française de santé, recommande l'utilisation de ce vaccin seulement pour les plus de 55 ans en France.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, je reçois Léa Lejeune, journaliste. Elle publie une enquête aux éditions du Seuil, Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes. A tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Rémi Bossaro.
Bonjour Léa Lejeune.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier ce livre, Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes, aux éditions du Seuil. Une enquête qui épingle beaucoup de marques très connues, hein, Dior, H&M, McDonald's, Amazon, IBM, Publicis, entre autres. Mais d'abord, expliquez-nous, c'est quoi le féminisme washing ?
Alors, c'est une expression que j'ai inventée en la dérivant du greenwashing. L'idée, c'est de l'ensemble des pratiques de communication, de marketing, de communiqué de presse utilisées par les entreprises pour faire croire qu'elles sont féministes, qu'elles respectent l'égalité homme-femme, alors qu'en interne, elles n'ont pas fait le travail pour changer leur production ou mieux traiter les femmes salariées. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Parce qu'aujourd'hui, le féminisme est plébiscité par 58% des Français qui se disent féministes, alors que ce n'était pas le cas avant. Et là, elles y ont vu une opportunité.
Alors, l'un des premiers exemples que vous donnez, il vous concerne, puisque vous dites que vous avez été vous-même une consommatrice victime de féminisme washing quand vous avez acheté une sculpture qui représentait la peintre mexicaine Frida Kahlo.
Oui, j'ai voulu être honnête avec mes lectrices et mes lecteurs, mais c'est surtout qu'en fait, on peut tous se faire avoir par le féminisme washing. Pourquoi Frida Kahlo, c'est un problème ? Parce que c'est une figure, une peintre qui est présentée comme une figure du féminisme. Sauf que derrière, et puis il y a 97 000 objets sur eBay, par exemple, à l'effigie de Frida Kahlo. Il y a des Barbie, il y a des petits porte-clés, des petites choses comme ça. Et derrière, il y a une multinationale qui s'appelle la Frida Kahlo Company et qui, en fait, tire des royalties de chacun de ces objets. Et donc, en fait, on croit qu'on achète un objet féministe, on s'identifie, on se présente comme féministe grâce à la figure de Frida Kahlo, alors qu'en fait, le capitalisme en profite. Et puis derrière, cette figure, elle est complètement gommée, effacée. C'est-à-dire que sa couleur de peau est blanchie, on montre qu'une vision de sa beauté, on lui a enlevé une partie de sa pilosité faciale, on monte les fleurs dans les cheveux et du coup on la réduit à quelque chose qui est très marketing.
Alors la difficulté pour détecter ce féminisme washing, c'est qu'en fait le non-respect des valeurs féministes peut prendre des formes très variées. Si on prend un vêtement à message féministe par exemple, vous parlez de Dior, de H&M ou de la marque de Beyoncé qui s'affiche comme étant une féministe, Ivy Park, vous dites, face à ces vêtements, à message féministe, il faut se demander si on veut l'acheter, si on est tenté, est-ce que toutes les femmes peuvent se l'offrir ? Est-ce que toutes les femmes peuvent le porter ? Est-ce que des femmes ont été exploitées pour le fabriquer ? Il faut prendre en compte tout ça.
En fait, l'idée, c'est d'expliquer comment on consomme mieux et comment on consomme de manière fidèle à ses valeurs. Le t-shirt Dior, c'est un t-shirt blanc avec écrit « We should all be feminist ». Et ça, c'est une phrase de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie.
Nous devrions tous être féministes.
Nous devrions tous être féministes. C'est une très jolie phrase. Le t-shirt a beaucoup circulé et c'est une super idée au départ, sauf que c'est 620 € le t-shirt. Qui dans les femmes autour de vous peut s'acheter ce t-shirt-là ? Donc c'est un féminisme qui est exclusif en fait. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de t-shirts à logo, de marques, de vêtements qui se disent féministes, sont en fait fabriqués par des femmes racisées, exploitées dans des pays paupérisés. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Où sont fabriqués les t-shirts ? Dans quelles conditions sont payées et traitées les femmes des produits que j'achète et qui se disent féministes ?
Alors il n'y a pas que les vêtements, les produits d'hygiène, les produits de qui occupe une grande partie de ce livre. Mais il y a aussi, par exemple, McDonald's. Pourquoi McDonald's ?
Pourquoi ? Parce que McDonald's, en 2018, avait fait une campagne de communication qui avait l'air maligne de premier abord, qui était de retourner le M de McDonald's pour en faire un W pour la journée des droits des femmes le 8 mars, et de dire « McDonald's est féministe et s'occupe vraiment des femmes ». Sauf que si on regarde dans l'enquête, en fait, McDonald's a été épinglé plusieurs fois. Donc il y a 20 procédures qui ont eu lieu en discrimination sexiste ou harcèlement sexuel aux États-Unis, un signalement auprès de l'OCDE. En France, il y a le collectif Mac Droit qui avait témoigné notamment dans une grosse enquête de Mediapart et qui révèle plusieurs cas comme ça d'inégalités professionnelles. Moi, je révèle des écarts de salaire qui sont importants dans l'entreprise et une nouvelle procédure au siège de l'entreprise. Bon, ce qui est problématique, c'est qu'on peut pas s'afficher féministe et traiter mal les femmes en interne. Et donc, McDonald's a toute cette dynamique-là. Et ce que je prône, c'est d'aller plus loin et de corriger ces inégalités pour pouvoir continuer à s'afficher comme ça.
Justement, vous dites qu'il faudrait créer une responsabilité féministe des entreprises, comme il existe déjà ce qu'on connaît, une responsabilité sociale des entreprises. Donc, l'idée serait de valoriser pour les entreprises le respect de ces valeurs qu'elles promeuvent dans leur publicité.
Voilà, l'idée, c'est surtout que la communication, elles le font déjà. C'est surtout de vérifier ce qu'elles font, vérifier si elles ont des objectifs chiffrés d'inégalité salariale, si mettent en place des plans, si elles aménagent les horaires pour permettre aux femmes, pas de réunion après 18h par exemple, pour permettre aux femmes de rentrer chez elles, de s'occuper de leurs enfants si elles le souhaitent, qu'elles vérifient les écarts de salaire, qu'elles promeuvent par des quotas les femmes à la direction de l'entreprise, qu'elles traitent les cas de harcèlement en les recensant et en vérifiant. En fait, qu'elles ne s'arrêtent pas juste au message et qu'elles fassent ce que demandent notamment les militantes féministes citées dans cet ouvrage.
Mais du coup, c'est une adaptation qui serait quasiment révolutionnaire pour beaucoup d'entreprises. C'est le mode de fonctionnement capitalistique qui est ciblé.
Alors oui, effectivement, le mode de fonctionnement capitalistique, la compétitivité, le fait qu'il faut toujours donner plus pour l'entreprise, tout ça, c'est des choses que les féministes essayent de rediscuter depuis un certain nombre d'années. Mais simplement, je veux dire, à un moment, les entreprises se sont engagées là-dessus parce qu'elles ont décidé que c'était une bonne manière de faire du profit, de vendre plus d'objets et d'attirer les bonnes candidates au bon poste. Et donc, à un moment, il faut que ça aille plus loin. Et si je peux me permettre, même Europe 1 l'a fait. Europe 1, l'été dernier, avait repris une image qui était une image des colleuses féministes avec Écouter le monde changer, et qui était une super idée dans l'idée de comprendre, on voit ce qui est en train de se passer du côté des jeunes femmes féministes. Mais simplement, est-ce qu'Europe 1 fait la démarche de se questionner, de se demander, est-ce qu'on paye de manière égalitaire les femmes chez nous?
Il faudrait aussi vérifier les managements chez nous aussi. Vous dites, à propos de ces marques qui se lancent dans cette publicité sur les valeurs féministes, en fait, elles se piègent aussi elles-mêmes, quelque part.
Ben oui, parce que c'est justement cette idée-là. C'est qu'à partir du moment où on s'est affiché comme ceci, on a dit cela, on prend le risque que, sur les réseaux sociaux, les militantes interpellent, que les consommatrices aient l'impression d'être bernées, et que les femmes salariées aient envie de se battre pour obtenir l'égalité des droits. Et finalement, ce que je dis, c'est que au départ, c'est une exploitation capitaliste d'un concept qui, en fait, demande l'égalité des droits. Et puis, à la fin, ça devient quelque chose qui pourrait peut-être être positif pour l'égalité homme-femme en poussant les entreprises à changer sous la pression populaire et salariale.
Alors justement, pour accentuer cette pression, vous mettez à la fin ce petit livret de votre livre, le manuel de rébellion à l'usage des consommatrices qui veulent faire changer les entreprises, et vous incitez à l'action individuelle, collective, par exemple par le boycott, l'affichage sur les réseaux sociaux. C'est des formes d'action qui peuvent fonctionner, qui fonctionnent peut-être déjà parfois.
Le boycott sur les réseaux sociaux, ça fonctionne quand ça dépasse le groupe des militantes féministes. Donc je les encourage à utiliser cet outil, mais aussi à aller interpeller des journalistes, à aller interpeller les marques directement. Mais parfois, ça peut être aussi par des pétitions, parfois par de la conversation. C'est par exemple ce qu'a fait le député sur Free Ouïghour. Mince, vous pouvez peut-être m'aider, le député européen. Oui, pardon, je suis désolée. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être utilisées. En fait, ce que je dis aux consommatrices, et vous le verrez dans le livre, c'est que j'explique toutes les petites choses auxquelles il faut faire attention dans sa consommation au quotidien, dans les entreprises dans lesquelles on veut postuler pour un job. Comment est-ce qu'on change sa manière de faire et comment on interpelle?
Merci beaucoup Léa Lejeune, consommatrice et consommateur, qui peuvent aussi bien sûr participer à ce mouvement et peut-être sensible aussi à ces valeurs féministes, et faire attention et s'informer, comme vous le dites, il faut s'informer sur le fonctionnement des entreprises. Merci beaucoup donc Léa Lejeune pour ce livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, Féminisme Washing.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, le journal de 13h présenté aujourd'hui par Marguerite Lefebvre, et bien sûr La France Bouge.